retrouve tout de suite et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard et on commence comme tous les jours par son billet d'humeur.
Quand on n'a pas encore la sienne, la vie de famille, franchement, c'est plutôt angoissant. Oui, quand on n'a pas encore dans le cœur l'amour de son mari et de ses futurs enfants, imaginez passer son existence dans une petite maison dans la prairie avec Charlie Ingalls qui va couper du bois tous les jours pendant qu'on prépare à manger du bouillon avec les légumes du jardin. Franchement, c'est vraiment angoissant. Alors je sais ce que vous allez penser, la vie de famille ne ressemble heureusement pas à un soap américain des années 80. Ce à quoi je vous réponds. Exact, mais pourquoi alors certains d'entre nous s'accrochent-ils malgré tout à cette vision effrayante de la vie familiale? Eh bien peut-être parce qu'il semblerait qu'on n'ait pas le choix. La société et ses codes nous donnent le sentiment que notre avenir ne nous appartient pas. Il faudra bien qu'un jour, comme tout le monde, on tente l'aventure de la famille Ricoré. Parce que nos parents l'ont fait, notre collègue de travail aussi, et qu'il serait dommage que nous passions à côté de ce qui est décrit dans les magazines comme l'essentiel de la vie, la famille. Alors quand je me suis plongée dans l'émission ce matin, j'ai pensé à deux personnes, à Quentin d'abord, qui s'apprête à se marier. Est-il normal qu'à quelques jours du grand saut, il puisse avoir le vertige en pensant à cette vie si structurée dans laquelle il s'engage? Doit-il en parler avec sa plus un pour exorciser sa trouille, faire respecter ses propres règles dès le départ? Comment Quentin peut-il s'endormir avec cette question lancinante « Suis-je fait pour la vie de famille ?» Deuxième cas de figure, celui de Josiane qui nous a raconté son histoire sur Europe 1.fr. Elle vit depuis 15 ans avec Marius qui ne supporte pas les réunions familiales. Est-il condamnable de ne pas être friand de déjeuners dominicaux, de grandes après-midi ou jardins d'acclimatation et de fêtes intergénérationnelles autour de l'anniversaire du petit dernier? Josiane sent pourtant que l'attitude affranchie de son mari est en train de détruire leur couple. Alors, que doit-elle faire? Eh bien, on va tenter de lui répondre aujourd'hui. Bienvenue dans « Et si c'était ça le bonheur ?», l'émission qui vous veut du bien.
Europe 1, « Et si c'était ça le bonheur ?», Faustine Bollard.
Bonjour à tous et à toutes. Pendant une heure, nous allons prendre soin de vous. Notre ambition, vous écouter, vous faire sourire et vous informer sur tous les sujets qui concernent votre bien-être. Bonjour Julia.
Bonjour Faustine.
Quel plaisir de vous retrouver comme
moi
chaque
aussi.
Jour. Alors je vous le rappelle Julia et aussi pour nos auditeurs, cette année c'est vous qui décidez du thème abordé chaque jour. Pour ça, rien de plus simple, faites comme Josiane, envoyez votre question sur europe1.fr, rubrique « Et si c'était ça le bonheur ?». Vous pouvez vous livrer sans langue de bois, vous avez pu le constater depuis un mois, nous répondons à toutes vos interrogations ensemble à 15h sur Europe 1. Au sommaire de cette émission donc, c'est à la question de Josiane que nous nous penchons, à savoir mon conjoint est-il vraiment fait pour la vie de famille? Pour en parler, nous serons dans quelques instants avec Laurent Chachman. Il est psychothérapeute de couple, il anime un café psycho tous les mercredis soirs sur son site internet cafépsycho.com. Il nous le dira que cultiver une vie de famille n'est pas essentiel tant que l'on trouve l'équilibre évidemment avec les siens. Et puis au sommaire également le blog du jour, celui d'une association baptisée Les Papas égale les Mamans. C'est une association qui tente de rétablir la place des deux parents auprès des enfants, du père autant que de la mère, pour que celui-ci ne se sente pas évidemment exclu de la vie familiale justement. Mais les principaux invités de cette émission, ça n'a pas changé, c'est toujours vous. Mon conjoint est-il vraiment fait pour la vie de famille? On attendait maintenant tous vos témoignages au standard 01 42 32 15 15. On donnera la parole à ceux d'entre vous qui ont en effet un conjoint qui n'est pas accro à la vie de famille. Anniversaire, bar mitzvah, fête de la grand-mère, votre homme ou votre femme est allergique aux réunions familiales. Il ou elle trouve toujours une bonne excuse pour échapper à ses obligations, à tel point que vous réalisez que cela commence à nuire à votre couple comme Josiane. L'aviez-vous senti avant de vous engager? Si d'ailleurs vous allez vous marier avec quelqu'un qui a des doutes sur sa capacité à s'investir dans ce genre de vie, appelez-nous pour qu'on y réfléchisse ensemble. On donnera ensuite la parole au premier concerné. Vous détestez la vie de famille, même si vous aimez vos proches, bien sûr. Vous pouvez vous pendre dès que vous recevez une invitation pour un faire-part ou un enterrement. Vous êtes anti-clan, anti-smala, anti plus de 4 personnes à table. Vous avez d'ailleurs peut-être décidé de vivre seul. Venez nous expliquer d'où vous vient ce rejet 01 42 32 15 15. Et puis à la fin de cette émission, vous aurez rendez-vous avec la chronique du jour. Le mardi, on s'intéresse à votre pouvoir d'achat, c'est plus que jamais d'actualité. Et aujourd'hui,
coquelicot.com. C'est un site spécialisé dans les jouets qui permet d'en dégoter à bas prix. Après tout, comme vous détestez la vie de famille, autant économiser sur les cadeaux. Je sais, c'est horrible. Alors, mon conjoint est-il vraiment fait pour la vie de famille? Pour en débattre avec nous donc, Laurent Schachmann, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Laurent, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychothérapeute de couple, vous avez un blog, unpsy.fr, unpsy.fr. Et en parallèle, vous animez également, je le disais, un café psycho tous les mercredis soirs sur votre site également, cafépsycho.com, c'est pas le même site?
Permettez-moi de préciser, c'est pas sur internet que j'anime le café psycho, c'est dans un vrai café.
C'est dans un vrai café.
Il y a un site qui s'appelle cafépsycho.com, mais il y a un café à Paris où des personnes.
Alors bah dites-le nous, ça se passe où?
Ça se passe au Maï Café, rue Saint-Georges. C'est un petit café dans le 9e arrondissement.
À côté de la place Saint-Georges.
Où on est une quinzaine environ chaque mercredi.
Tous les mercredis soirs. D'accord. Alors, je vous pose d'abord la vraie question. Peut-on dire que certains d'entre nous sont faits pour la vie de famille et d'autres non? Est-ce que dans nos gènes, on aurait un gène familial ou pas?
Je dirais que si c'était le cas, ça choquerait profondément ma conception de l'être humain. Et je dirais qu'à la limite, je sais pas comment je pourrais travailler comme psychothérapeute. Ma conception de l'être humain, c'est que chacun de nous est en perpétuel développement, chacun de nous a tout ce qu'il faut pour évoluer, pour changer, éventuellement, à sa plus grande surprise parfois, prendre des directions qu'il n'avait pas prévues au départ, mais qu'il peut choisir d'infléchir dans un sens ou dans l'autre. Donc je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui soient faites ou qui ne soient pas faites dans la vie de famille, pour la vie de famille, pardon. Et d'ailleurs, ça serait enfermant, ça serait rigidifiant pour la personne.
Donc chacun va pouvoir évoluer, ce qui est déjà extrêmement rassurant, évidemment, pour tous les conjoints qui nous entendent et qui se disent que c'est peut-être en effet tout est gravé dans le marbre. Visiblement, non. Alors avant de s'engager dans une vie familiale, comment savoir si on est fait pour ça? Quelles sont les questions, je pense notamment à tous les jeunes futurs mariés, en tout cas, qui nous écoutent? Quelles sont les questions qu'il faut peut-être savoir se poser avant de s'engager pour savoir si on n'est pas en effet réfractaire à la vie de famille?
L'idéal, c'est de ne pas se poser de questions. C'est-à-dire que si on ne se pose pas de questions, c'est que visiblement, tout va bien et qu'on part dans un bon projet.
Quelles sont les questions alors qu'on pourrait se poser? Je ne sais pas si par exemple, moi je vois mon conjoint qui me dit « mon avenir me fait peur », est-ce qu'il faut savoir rebondir pour fouiller un petit peu avec lui?
Alors là, quand on est capable déjà de dire qu'on a peur, c'est qu'on a franchi un grand pas. C'est-à-dire que c'est un couple qui est capable de se parler de façon profonde et authentique. Dans la vie de tous les jours, souvent, avant qu'un conjoint puisse dire à l'autre ou qu'un fiancé puisse dire à l'autre « j'ai peur » ou « j'ai peur de l'avenir », il faut quand même un grand travail relationnel. Et souvent, il faut l'aide d'un médiateur, d'un thérapeute de couple, d'un coach de couple, tout ce qu'on veut, pour arriver à ça. Mais une fois qu'on a exprimé la peur, après il faut encore approfondir. Qu'est-ce que c'est que cette peur? À quoi elle fait référence? Comment je me sens quand j'ai peur? Est-ce que l'autre a à voir là-dedans ou c'est juste mon affaire à moi d'avoir peur?
Et c'est donc ce genre de questions qu'il faut se poser en effet peut-être avant de s'engager. Je vous propose de prendre un premier auditeur. C'est Dominique. Bonjour Dominique. Alors, on a Patrice, on me dit. Pardon, excusez-moi. Bonjour Patrice. Patrice, bonjour.
Bonjour Faustine, bonjour professeur Schachmann.
Bonjour.
Alors, vous nous dites, Patrice, que vous êtes totalement d'accord avec ceux qui boycottent les réunions de famille, parce que vous trouvez ça lourd, insupportable. Expliquez-nous pourquoi.
C'est quelque chose de... C'est à la limite de l'abject. C'est-à-dire que...
Carrément?
Ah oui, non, c'est épouvantable. Je vous parle du cas que je connais mieux, qui est le mien, et qui est d'ailleurs aussi celui de ma femme, et on s'est assez bien trouvé là-dessus, c'est que il m'est, je vais qu'à dire, quasi impossible d'aller à un mariage où je connais vraiment un mariage familial, à une réunion type baptême, etc. Ce qui fait que d'ailleurs, bon, je reçois les invitations, mais je pense que les invitants ne comptent pas sur moi parce qu'ils savent très bien qu'on va pas venir. Et ça va à un tel point que c'est même le simple repas de famille. J'ai la chance, je pense que c'est une chance qu'on a un peu provoquée, d'habiter à 1200 ou 1100 ou 1100 kilomètres de ma famille et également de la famille de ma femme.
C'est fait exprès d'ailleurs.
Oh, écoutez, non, pas vraiment, pas au départ, mais enfin, je crois qu'on s'en est très très bien, accommodé. Mes beaux-parents, par exemple, sont venus chez nous pendant 2 semaines. Eh ben, si vous voulez, pendant 2 semaines, au lieu de me lever à 7h15 comme tous les matins, je me lève à 6h15 pour être sûr de ne pas prendre le petit déjeuner avec eux.
Mais qu'est-ce que ça me fait rire? Mais ça paraît anecdotique, mais j'ai l'impression que c'est pas si anecdotique que ça. Qu'est-ce qui vous dérange? Essayez de nous décrire ce qui vous pose un problème dans ces rites familiaux.
Alors, si les rites familiaux, c'est le contact avec le passé. Alors, si c'est dans la famille du côté de mon épouse, ça va être Ils vont parler de ce qu'elle a fait avant. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait de la jalousie, je crois pas, hein, de ma part, mais par contre, même de mon côté, on va dire, ah oui, bah tu te souviens la copine que t'as eue avant ta femme, là, elle était comme ci, elle était comme ça.
Je sais pas si vous avez choisi la bonne famille en même temps, parce que si devant votre femme ils font appel ou ils parlent de votre ex, déjà c'est assez malvenu en soi.
Oui, vous savez, attendez, il y a des brebis galeuses dans tous les troupeaux, comme dit la l'autre.
Alors, je vais rebondir sur ce que... J'adore. Je vais rebondir avec Laurent sur ce que vous dites. Patrice nous dit donc qu'il n'aime pas la vie de famille parce que tout simplement, il a l'impression de se retourner en permanence vers le passé.
Bah, apparemment, tout va bien pour Patrice et pour son épouse. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur le fait qu'ils n'aiment pas avoir des relations trop proches et trop fréquentes avec leurs parents et beaux-parents. Ils sont d'accord. Ils ont l'air d'être bien dans leur vie de couple. Bah, alléluia, tout va bien, c'est super.
Est-ce que...
Je suis tout à fait d'accord, mais je voudrais dire aussi... en disant ça, que je n'invite personne à faire comme Patrice. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui s'éclatent en allant tous les dimanches midi, ou un dimanche midi sur deux chez les parents, et un dimanche midi sur les beaux-parents. C'est bien aussi si on a envie. Le problème, c'est juste quand on a envie de l'un et qu'on fait l'autre.
Évidemment. Et là, c'est pas le cas. Votre femme, par exemple, n'aurait pas envie de cultiver plus de relations avec sa famille?
Non.
Non. Ah ben c'est super alors. Donc non, finalement vous êtes tout allergique à ça.
Oui, absolument. Mais vous parliez tout à l'heure, professeur Chachemène, du problème de l'évolution de ce sentiment qu'on peut avoir. Alors j'ai pas l'impression que j'ai évolué. Mais ce que je me dis, c'est que quand je vieillirai, est-ce que je vais pas moi souffrir du fait que mon fils pourrait avoir la même position que la mienne,
c'est-à-dire est-ce que c'est héréditaire, est-ce que quand on grandit, non mais c'est vrai.
Héréditaire, je sais pas, mais je voudrais pas me rendre compte des années après, c'est-à-dire quand je serai tout simplement un vieux dans un coin avec un petit garçon qui sera devenu grand, de me dire oh là là mon Dieu,
la peur de vieillir seul, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes en pleine possession de vos moyens, c'est positif, mais est-ce qu'en effet ça sera pas... Alors on va vous laisser répondre dans quelques instants, mais je voudrais qu'on fasse une petite pause. Dans quelques instants, on va continuer à donner la parole à ceux donc qui vivent loin de leur famille, ou en tout cas ceux qui sont allergiques à la vie de famille. Et puis si vous allez vous engager avec quelqu'un et que vous sentez qu'il peut avoir des difficultés justement à s'intégrer, en tout cas accepter cette voie de la vie de famille, vous êtes angoissé puisqu'il est, il est terrorisé, comment rassurer quelqu'un qui semble si fermé à l'idée de clan? Et bien on va y réfléchir ensemble.
N'hésitez pas à nous appeler au 01 42 32 15 15 et par mail c'est toujours europe1.fr.
Europe 1, et si c'était ça le bonheur? Faustine Bollard.
Et avec Faustine, nous répondons aujourd'hui à la question que nous a posée Josiane sur europe1.fr, à savoir, mon conjoint est-il vraiment fait pour la vie de famille? Pour y répondre, Laurent Chachemène est avec nous. Il est psychothérapeute de couple. On peut notamment le retrouver sur son blog unpsy.fr. C'est écrit unpsy.fr, Faustine.
Alors, juste à l'instant, on avait Patrice au téléphone qui nous expliquait aussi qu'aujourd'hui, ça lui convenait parfaitement de rester loin de sa famille, mais qu'il avait peur que plus tard, évidemment, en vieillissant, il se retrouve vraiment seul. Est-ce que c'est ça qui nous pousse à aller finalement à se retrouver en clan? C'est tout simplement la peur de solitude quand on sera dans notre grand âge, au soir de notre vie?
Je ne sais pas ce qui pousse en général chacun à se rapprocher d'une façon qu'il souhaite de sa famille, ou à s'en approcher de façon moyenne ou proche. En tout cas, pour Patrice, j'entends quand même une inquiétude qui n'est pas une inquiétude lointaine, qui est une inquiétude qui est déjà présente. Et vraiment, je pense qu'il y a approfondir la peur de la solitude, la peur de l'abandon. Ce sont des choses qui sont présentes en lui, et il vit, et dans ma bouche ce n'est pas du tout une critique, il vit les choses différemment en tant qu'enfant et en tant que parent. Et ben voilà, c'est pas la même chose selon qu'on se place d'un côté de la barrière ou qu'on se place de l'autre. Ben voilà, c'est ce que vit Patrice, qui est agréable d'un côté, désagréable de l'autre.
En tant qu'enfant, il aime bien être éloigné. En tant que parent, il comprend que ça puisse pas être un problème. Voilà. Il faudra en effet fouiller là-dessus. Je voudrais qu'on prenne une Laetitia en ligne. Bonjour Laetitia. Une Laetitia, mais c'est notre Laetitia. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous Laetitia. Vous avez 27 ans, vous nous appelez de Haute-Marne. Et vous, c'est votre mari que vous êtes obligée de vous battre pour qu'il vienne aux réunions de famille.
Ah bah c'est même plus me battre, c'est que j'ai baissé les bras complètement, parce que ça fait 5 ans maintenant, et c'est 5 ans qu'à chaque réunion de famille, à chaque Noël, là ça va être là dans 2 mois, ça va être la crise, savoir où on passe Noël, parce que il va pas vouloir venir.
Alors puisque Josiane qui nous a posé cette question n'a pas souhaité aujourd'hui intervenir dans l'émission, est-ce que vous pourriez nous expliquer en tant que femme comment vous le prenez? C'est-à-dire que c'est un rejet de vous, ça peut poser des problèmes dans votre couple?
Ah ben oui, ça pose des problèmes parce que plusieurs fois je lui ai dit, en plus maintenant on a un petit bébé, donc faut quand même vraiment vivre la vie de famille à fond, je veux dire au moins pour le petit, et je lui ai déjà dit, je dis, si tu fais pas d'efforts, à quoi ça rime que qu'on soit ensemble, parce que dès qu'il faut aller dans la famille, c'est la guerre. Moi, après, comment justifier ça aussi à ma famille? Leur dire, ben non, c'est pas qu'il vous aime pas, mais il veut pas venir, voilà.
Et évidemment, et j'appelle évidemment toutes les grand-mères, les belles-mères, évidemment, qui seraient choquées par le fait que leur beau-fils ou leur belle-fille ne veuille pas se rendre dans les réunions de famille, à nous appeler. Mais vous dites, il faut qu'il se plonge à fond dans la vie de famille. Pourquoi il faut?
Pour vous, c'est une
évidence.
Voilà, pour moi, j'ai été élevée au sein d'une famille. Bon, lui, ça a été différent, peut-être, mais au moins, pour son fils, faire un effort d'être présent, parce que le petit va se dire au bout d'un moment, ben pourquoi quand je vais chez mon grand-père ou chez ma grand-mère, papa vient pas. Voilà, et ça, c'est un truc qui, pour moi, en tant que femme, me blesse, parce que je me dis, est-ce que c'est
bien
ma famille qui est pas assez bien, hein? Bon, je suis pas.
Et puis vous dites clairement que vous avez peur que votre fils l'interprète mal.
Bah exactement, parce que même pour lui, c'est la famille, ça doit être uni et ça doit pas être une différence. Papa vient pas quand c'est la famille à maman. Ou...
Évidemment.
Voilà, donc même lui, par rapport à sa famille, il n'est pas du tout pour tout ce qui est repas de famille. Ça, il est des parents.
Il n'est pas comme ça. Alors, est-ce qu'il doit se forcer, cet homme, Laurent Chachman?
Écoutez, Laetitia, je dois d'abord vous dire que je suis sensible à votre désarroi et Faustine vous a bien permis d'exprimer ce qui était difficile pour vous. Après, comment votre mari et vous allez trouver la réponse à cette différence de point de vue, ce qu'on doit faire à Noël, comment on doit vivre
avec... C'est une question qui se pose dans beaucoup de foyers. Hein,
oui, c'est une question, mais elle peut se poser d'ailleurs pas seulement avec la vie de famille, elle peut se poser sur ce qu'on fait le dimanche après-midi, sur lire le foot, ou seulement si on va à la mer ou à la montagne pour les vacances. Comment on peut résoudre ces problèmes quand on est vraiment opposé? Je crois que c'est en allant pour chacun au plus près de soi et au plus près de l'autre. C'est-à-dire que chacun doit essayer de comprendre, et c'est difficile, et c'est un travail, ce qui se passe pour l'autre et aussi ce qui se passe pour lui-même quand il a envie d'aller voir ses parents ou de ne pas aller voir ses parents.
C'est-à-dire essayer de comprendre où est-ce qu'il y a un blocage. Mais est-ce que
vous me permettez de terminer, c'est-à-dire que quand l'autre veut faire autrement que comme moi je fais, c'est pas forcément quelqu'un de méchant qui cherche à me nuire, c'est quelqu'un qui a ses propres besoins et je peux essayer.
Mais là il a un enfant, à un moment il y a un tiers quand même.
D'accord,
qui se met, s'il y avait que sa femme encore.
OK, il peut y avoir plusieurs personnes, il y a aussi les parents eux-mêmes qui sont des personnes qu'on peut prendre en considération. Le plus difficile, ce que j'engage à faire, c'est essayer de comprendre l'autre, quelles sont ses motivations profondes. Et évidemment, il y a besoin d'une collaboration du couple. Il faut que le couple puisse parler.
Alors, Laetitia, je voudrais, est-ce que vous avez commencé à réfléchir? Comment vous avez commencé est-ce que vous avez essayé de réfléchir avec lui, avec qu'est-ce qu'il dérangeait? C'est juste un ennui? C'est juste un embêtement? Ça l'agace? Alors, ça l'embête, tout simplement? Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose de plus profond, de plus intime chez lui?
Je pense qu'il y a deux choses. C'est déjà, c'est pas qu'il est pas sociable, c'est que il aime pas le monde. Voilà, il préférera être tranquille à la maison, si ce n'est peut-être quand même avec deux, trois personnes à inviter, mais des amis, plus que des personnes avec qui il a quelque chose en commun. Voilà, s'il a pas de sujet de conversation énormément en commun, ça va pas lui plaire, il va s'ennuyer et voilà, ça va le bloquer pour les fois d'après. Donc c'est vrai qu'en famille, on retrouve pas, c'est la famille, c'est pas les amis, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt.
On comprend évidemment que si c'est juste de l'ennui, ça soit plus difficile à accepter encore, Laurent.
Alors, je veux dire que c'est vraiment l'occasion, avec Laetitia, de peut-être poser la question de façon différente. Au lieu de dire « mon conjoint » et qu'il fait pour la vie de famille, peut-être on peut se demander la chose suivante. Malgré nos différences, suis-je capable de vivre et de m'épanouir? Suis-je capable d'être heureux ou heureuse avec mon conjoint tel qu'il est aujourd'hui? Parce que si mon objectif c'est de faire changer mon conjoint,
mais dans ce cas-là, personne ne change jamais, personne ne vit en vous couple et on vit tous chez nous bien gentiment.
Alors, il y a quelque chose que je propose.
Parce qu'on est forcément mieux seul, hein, au moins on se comprend.
Je sais pas, vous parlez pour vous peut-être.
Non, mais l'autre, j'imagine, implique de toutes les manières de réfléchir, de se transformer et d'évoluer.
Absolument.
En effet, je vais pas, si mon homme n'aime pas ça et que j'ai envie de faire, j'estime aussi qu'il puisse faire un effort pour aller dans mon sens et
peut-être.
De temps en temps, je fais des efforts dans son sens.
Je comprends bien votre besoin, je le trouve légitime. Simplement, je n'ai aucun pouvoir pour faire changer l'autre. Tout ce que je peux faire, c'est changer moi. Et si je change moi, peut-être que l'autre, du coup, va changer aussi. Mais si je fais pression sur l'autre, j'ai peu de chances que ça marche.
On va faire une petite pause juste avant. Je vous lis le témoignage de Léonore qui dit « Quel égoïsme ces témoignages. Je ne raffole pas des réunions de famille à l'excès, mais je ne comprends pas ces personnes qui fuient même un petit déjeuner avec leurs parents ou beaux-parents. Ma question, aiment-ils leur famille? Comment feront-ils lorsqu'ils seront vieux et que leurs enfants réagiront de la même manière ?» Voilà, la famille ne doit pas être la seule raison d'être. Les amis sont importants, mais pour l'équilibre de tous et des enfants, il est important de faire l'effort de se retrouver en famille de temps en temps. Merci Léonore, puisque je partage un petit peu votre avis. Je suis pas une hystérique de la famille. Voilà. Bon, on se retrouve dans quelques instants. On continue ce débat avec vous. Et continuez à nous appeler au 01 42 32 15 15 et par mail europe1.fr.
Europe 1, Faustine Bollard. Jusqu'à 16h. Et si c'était ça le bonheur?
Et avec Faustine, nous répondons cet après-midi à la question que nous a posée Josiane sur europe1.fr. Mon conjoint est-il vraiment fait pour la vie de famille? Pour y répondre, Laurent Schachmann est toujours avec nous. Il est psychothérapeute de couple et on peut notamment le retrouver sur son blog unpsytoutattaché.fr. Alors juste avant de prendre Catherine en ligne, je voudrais qu'on se demande tout simplement, il en parlait tout à l'heure un petit peu, Patrice, notre premier auditeur, est-ce qu'on devient soi-même réfractaire à la vie de famille quand on a grandi dans une famille disloquée? Tout simplement. Est-ce qu'on reproduit ces schémas familiaux là?
On peut, comme on peut aussi choisir le contraire. C'est-à-dire que je vais répondre un peu comme à toutes vos questions. Tout est possible.
Et ça m'aide pas.
Et je dirais que à chaque fois, la question c'est de savoir si chacun se sent confortable, se sent fluide avec ce qui se passe pour lui. C'est-à-dire que on peut vivre heureux. Vous vous en moquiez dans votre billet. On peut vivre heureux la petite maison dans la prairie. Si on est tous d'accord comme ça,
la tout pub va bien. Ricorée, on peut très bien s'épanouir dedans.
On peut très bien, oui, y compris le type qui apporte la Ricorée.
Ricorée, mais... des squids, banania, c'est ça. Il faut citer trois. Hein.
Oui, c'est ça. Exactement.
Voilà, ça va là.
Pardon.
Très bien.
D'accord.
Non, c'est ma faute.
Tout est possible. Il faut simplement, si c'est pas possible, il faut sentir pourquoi et il faut pouvoir approfondir. Et si possible, ensemble, travailler ensemble à approfondir ça.
Je voudrais qu'on prenne Catherine en ligne. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous Catherine. Alors vous êtes un petit peu tristoune, je crois.
Oui.
C'est ce qu'on m'a dit dans l'oreille, puisque votre conjoint ne participe justement à aucune raison de famille, pour quelle raison, avec une réunion de famille, pardon, pour quelle raison. Et puis je crois même que sur sa propre fille, hein, il a du mal à fêter ne serait-ce que ses anniversaires.
Ah, tout à fait. Nous avons deux filles, 7 ans et 4 ans, et ils ne participent à aucun anniversaire. J'ai fêté les 4 ans de la petite dernière le 28 septembre dernier, et ils n'étaient pas présents. Il y avait ma famille, certaines de mes sœurs, et voilà.
Alors, il était où? Qu'est-ce qu'il a fait, déjà?
Eh bien, il part sur son bateau.
Ah oui, ce qui est, en plus, c'est un acte, c'est revendiqué hein, de partir sur un bateau, parce qu'il est tout seul sur ce bateau.
Tout à fait.
Ah oui, il part en mer tout seul, c'est assez, en effet assez symbolique. Comment il vous l'explique quand vous lui dites que ça vous en souffrait?
Oui, alors j'en ai souffert, après j'en ai plus souffert et j'en ressouffre à nouveau. Il dit que l'asmala, ça ne l'intéresse pas, recevoir l'asmala, et puis voilà, qu'il ne supporte pas de passer 3 heures à table à parler de tout et de rien, et donc voilà, il s'en explique comme ça.
Alors on se disait tout à l'heure en effet qu'il y avait peut-être une raison plus profonde, est-ce qu'il y a quelque chose dans son passé, dans son apprentissage de la vie qui aurait pu bloquer au niveau de la famille?
Oui, certainement. Il était déjà comme ça chez ses parents, et puis il y a eu un conflit avec ses parents, et je pense que il est resté bloqué là-dessus, et voilà qu'on après.
Il est jaloux, vous pensez, de même de votre famille, de votre côté, et peut-être vous êtes unis avec votre famille. Vous avez 5 frères et sœurs,
oui.
Je crois.
Tout à fait. Oui, nous sommes très unis, de plus en plus d'ailleurs. Nous avons vécu un drame familial l'année dernière qui nous a encore plus réunis. Et je pense, est-ce qu'il est jaloux d'eux? Je ne sais pas. Il est jaloux en tout cas de la relation
bien sûr,
que j'ai.
Bien sûr, c'est ce que j'entendais, de la relation que vous entretenez avec eux.
Qui est pourtant tout à fait normale, hein, parce que je les vois une fois par mois et encore. Donc voilà, c'est pas non plus une famille qui s'impose, qui passe son temps à m'appeler et à venir me voir.
Voir finalement votre communion le rappelle, peut-être lui renvoie à sa propre déception vis-à-vis de ses parents. Laurent Schachmann.
Bah écoutez, Catherine, votre souffrance est tout à fait touchante. Que votre conjoint soit pas là pour les 4 ans de votre fille, c'est tout le monde comprend, c'est extrêmement pénible. Après, sur les raisons profondes qui sont les siennes, je ne sais pas si on les connaîtra vraiment. Il parle, il dit des choses, mais est-ce que lui-même d'abord, il connaît vraiment la vérité? Parce que vous n'avez pas de chance. Votre conjoint est un homme. Et il y a une réalité, c'est peut-être la seule généralité que je voudrais accepter de faire, c'est que les hommes sont des handicapés de l'expression de l'émotion. Il faut le savoir. Vous, mesdames, soyez-en conscientes. Nous, les hommes, nous sommes des handicapés de l'expression de l'émotion.
On ne le sait que trop bien. C'est les boulets.
Voilà. Soyez-en conscientes. Ne profitez pas de votre supériorité, au contraire.
C'est pas une supériorité, c'est une différence.
Ouais, quand même. Et essayez de vous mettre à la hauteur de ces pauvres hommes qui ne savent pas, qui n'osent pas. Et dans certaines.
Ils vont appeler les pauvres hommes, hein.
Et dans certaines traditions, c'est encore pire.
Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Catherine?
Ben, je dirais que vous, les femmes, vous avez une responsabilité supplémentaire, dans un couple. pour aider l'homme à avancer. Et je vois bien dans
oui, la... Comment elle peut faire concrètement, elle ?
Alors il faut essayer d'avoir un dialogue, le dialogue profond et authentique dont je parlais tout à l'heure. Les thérapeutes de couple sont là pour vous aider. Moi je dois vous dire qu'en tant que thérapeute de couple, souvent je favorise le plus handicapé, c'est-à-dire je favorise l'homme, parce que c'est celui qui est le plus démuni, qui sait le moins aller au fond de lui-même. Mmh. Et encore une fois, j'en appelle aux femmes.
C'est une pression, une responsabilité pour la femme dans ce cas-là, non ? D'être tout le temps à l'écoute de l'autre.
Oui, sans
doute. Quand soi-même on est en souffrance.
Oui, sans doute. Mais la femme est tellement capable d'aller à l'écoute d'elle-même qu'elle peut faire aussi, je pense, l'effort d'aller à l'écoute de l'autre plus facilement que l'homme.
Alors merci beaucoup évidemment Catherine et on espère que votre conjoint sera là pour la prochaine fois et en effet dialoguer, c'est un peu le message qu'on essaie de faire passer en cette émission. Joël nous écrit, j'ai eu deux maris qui ne supportaient pas les réunions de famille, depuis je suis toute seule, je m'éclate vraiment car j'adore toutes les réunions de famille et amicales, merci, bisous Joël, merci beaucoup pour votre témoignage. On va prendre tout de suite Agnès, bonjour Agnès.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous. Oui. Alors vous dites que justement, il ne faut pas forcément forcer son conjoint à voir la famille.
Non, pas du tout. Moi, j'ai été, bon, en ce moment, je suis célibataire, mais j'ai été très longtemps avec un garçon pendant 7 ans qui était très timide, très introverti, très réservé, tout mon contraire. Moi qui suis très sociable, très extravertie, qui va très facilement vers les autres. Et donc, chaque fois qu'on avait des réunions amicales ou autres, il se désistait toujours. Parce qu'il ne se sentait pas d'être au-delà de plus de 3 personnes, il ne communiquait plus, il n'échangeait plus, et je ne l'ai jamais forcé, parce que j'avais choisi ce garçon tel qu'il était, en tout état de cause, et je ne me voyais pas l'obliger à être dans une souffrance, parce que effectivement, pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie, pour moi, c'est aller vers une souffrance quelque part, et je ne voyais pas l'intérêt. Alors, de nombreuses fois, mes amis m'ont dit, mais il vient jamais, est-ce qu'il t'aime vraiment ? Je disais, mais là n'est pas la question, c'est pas parce qu'il vient pas qu'il ne m'aime pas.
Oui, le raccourci est un peu rapide, choix. En effet. Hein.
C'est un choix personnel.
Mais en même temps, vous touchez du doigt ce qu'on aimerait toutes et tous, j'imagine, savoir faire. Aimer l'autre exactement comme il est, mais vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'il faille quand même faire des compromis pour aimer l'autre ?
Alors, ça veut pas dire que j'ai pas tenté, que j'ai pas demandé par contre, hein. Je demandais toujours, et il y a des cas de figure où j'insistais un petit peu en disant, ça me ferait vraiment plaisir, ils seront trop son couple, moi je vais être seule, j'ai envie que tu sois là, je
disais. Alors est-ce qu'il le faisait à ce moment-là bien volontiers?
Là, oui, il sentait qu'il y avait des moments au cours de l'année où il était, bon, après il s'est apprivoisé, il venait un tout petit peu plus souvent, mais par exemple, il ne supportait pas quand on partait en week-end avec les copains, les enfants des copains, je ne lui ai jamais imposé ça. Et de temps en temps, ben, une fois par an, il faisait l'effort, et je l'en remerciais que plus intérieurement.
Mmh. Mais je crois que. Mais alors pourquoi on n'est plus avec lui?
Ah, ça c'est pour d'autres
raisons. Ah d'accord, ok, ça n'a rien à voir alors. Non mais parce que d'un coup je le trouve charmant ce garçon.
Mais je trouve, alors bizarrement, paradoxalement, moi je n'ai pas de vie de famille, puisque je suis fâchée avec toute ma famille.
D'accord.
Et je riais tout à l'heure en entendant parler de la petite maison dans la prairie, parce que je suis en quête de ça. C'est-à-dire que
vous l'idéalisez complètement,
mieux.
Bien sûr.
Complètement.
Mais Claire, attends, restez avec nous, Agnès. Claire nous écrit, j'ai 23 ans, j'ai horreur des réunions familiales, je trouve toujours un bon prétexte pour y échapper, je suis au point de souhaiter à tout prix travailler pendant les vacances de Noël pour ne pas avoir à rester dans ma famille plus de 24 heures. En revanche, je trouve très sympathique les réunions de famille de mon conjoint qui sont pourtant beaucoup plus régulières, peut-être parce qu'elles sont plus conviviales, moins guindées et surtout qu'il n'y a pas d'enfants grillants dans tous les coins. C'est-à-dire que vous n'êtes pas fermé finalement à la vie de famille de l'autre.
Non, pas du tout. Je crois qu'on fantasme, enfin, je sais pas. Moi, je suis bien dans les vies de famille des autres.
Mmh.
Pas dans la mienne, pas dans ma famille, mais je fantasme complètement les autres, les vies de famille des autres. Donc, je suis toujours invitée à des repas de Noël de famille, des copains, d'amis, et je suis très heureuse dans ces familles-là, alors que dans la mienne, j'étais toujours très en souffrance et très malheureuse. Et c'est pour ça que je déteste imposer à l'autre de devoir vivre quelque chose qui peut le mettre en souffrance, l'obliger à vivre ce genre de situation. Donc, ayant très bien analysé le pourquoi en moi, je ne me verrai pas. Et puis, je pense que c'est une forme de tolérance également.
Mmh.
Donc, je veux dire, comme le disait très bien le monsieur qui est avec vous, quand on choisit quelqu'un, c'est vrai qu'on apprend à découvrir les gens au fil du temps, mais on le choisit quand même en tout état de cause. Donc, si c'est pour le transformer, autant choisir quelqu'un d'autre.
Merci beaucoup Agnès. Pardon, je souris parce qu'à l'instant, je viens de recevoir un mail de ma cousine, donc qui m'écrit « Ah, la famille dont tu ne raffoles pas te remercie, vieille dinde. » Mais excusez-moi en effet, puisqu'il y a la famille qui écoute. Merci évidemment Agnès, puisqu'on c'est amusant hein, ce qu'elle dit. Et c'est d'ailleurs assez concret quand elle dit « On idéalise toujours la famille. » C'est vrai qu'on a cette image de la famille de la petite maison dans la prairie avec le papa bienveillant, la maman qui cuisine. Et donc, évidemment, on la retrouve pas dans sa propre famille parce qu'on la connaît, mais dans celle des autres, vu qu'on connaît que l'extérieur, on a tendance à trouver ça magnifique, la famille des autres, finalement.
C'est une question que vous me posez. C'est marrant, vous me posez question quand j'ai rien à dire.
Ah bon, bah d'accord, c'est pas grave, non, on va enchaîner.
J'ai pas de commentaire à faire, non, si ce n'est que tout va bien pour chacun. Vous savez, résoudre une question, c'est pas forcément de trouver une réponse. Hein. C'est de faire en sorte qu'on soit plus embêté avec. Et c'est ce que font nos auditeurs qui nous posent des questions ou qui envoient des mails. C'est qu'ils veulent pas forcément une réponse que je leur apporte ou que vous leur apportez ou qui ce soit leur apporte. C'est qu'ils démarrent un processus, ils enclenchent un processus qui va faire en sorte qu'ils vont équilibrer leur vie. C'est ça, de poser une question.
On va faire tout de suite une petite pause. On va se retrouver avec le blog du jour, www.lplm.info. C'est le site de l'association Les Papas égale Les Mamans. Pour aimer la vie de famille, peut-être faut-il que l'homme trouve aussi sa place dedans, dans cette vie de famille. On en discute dans un instant.
Europe 1, et si c'était ça le bonheur?
Et si c'était ça le bonheur?
Le blog du jour.
Et avant de faire le blog du jour, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle de mon conjoint est-il vraiment fait pour la vie de famille? C'est Josiane qui nous a posé cette question sur Europe1.fr. Nous sommes toujours avec Laurent Chachman, qui est psychothérapeute de couple. Christine. Alors, tous les jours, nous vous parlons d'un blog, d'un site internet ou d'un livre qui vous permet de poursuivre cette réflexion chez vous après l'émission. Aujourd'hui, nous voulions parler d'une association qui vise à équilibrer la place du papa et de la maman dans la vie de famille pour qu'elle soit le plus épanouissante possible, justement. Nous sommes en ligne avec Gérard Révérend. Bonjour, Gérard.
Bonjour, Christine.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes président de l'association Les Papas égale les mamans. Alors, on dit depuis tout à l'heure que certaines personnes ne s'épanouissent pas dans la vie de famille. Est-ce que ça peut être aussi parce que, justement, le rôle de papa est un petit peu négligé par rapport au rôle de la maman? Depuis tout à l'heure, on a plutôt que des hommes qui essaient de fuir cette vie de famille.
Bon, concrètement, ça pose la question de la place du père dans les familles et des facteurs qui interviennent. Donc, il faut rappeler qu'on est dans une société, que les règles sociales sont assez puissantes et qu'on a ce qu'on appelle des représentations sociales qui donnent pas beaucoup de place au père. Et pourtant, la plupart des indicateurs récents montrent que les pères sont prêts à s'engager et le font déjà beaucoup avec la place qui est laissée. Donc, il y a une petite confrontation par rapport à des modèles anciens, je dirais. Hein.
Le discours médical est particulièrement tourné vers le rôle de la mère, par exemple.
Le discours médical reste très tourné. Il y a des débats assez passionnels entre, je dirais, les médecins d'un côté, enfin, les discours médicaux, et ce qu'on peut avoir par rapport à la recherche en psychologie expérimentale, notamment française, et en sociologie également française. Donc il y a un petit peu une guerre. Oui, il y a des conflits de modèles. Il y a beaucoup de résistance, hein, bien sûr, parce que c'est des changements importants, ce sont des enjeux société, et ce sont des changements qui font peur, ce qui explique, je pense, que les gens aient tendance à se réfugier vers des modèles un petit peu anciens. Pourtant, je crois qu'il faut rappeler combien est important, là il y a un véritable consensus, et les discours médicaux le confirment, hein. Le père a un rôle capital.
Alors en quoi ? Qu'est-ce qu'il apporte justement ce père ?
Justement, bon, là c'est vraiment prouvé, surprouvé, et c'est certainement un des seuls consensus qui existe. Donc le père, en s'impliquant réellement, permet d'améliorer la confiance en soi de l'enfant, d'avoir une meilleure scolarisation, une meilleure socialisation, une meilleure professionnalisation, une meilleure vie de famille. Donc on voit que ce sont des atouts très forts, et faut surtout pas s'en priver.
Alors l'objectif de votre association, c'est justement de faire la promotion de cette idée, hein, rétablir la place des deux parents auprès de l'enfant, du père autant que de la mère. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce site lplm.info?
Alors, sur le site lplm.info, on trouve une base de données qui comporte aujourd'hui 1400 articles, depuis des dossiers de presse commentés jusqu'à des mémoires universitaires pour que les personnes puissent approfondir à mesure leurs interrogations. C'est le site de l'association, et au niveau de l'association, on fait cette promotion, notamment avec des analyses et préconisations qu'on va soutenir. Voilà, on prépare un dossier pour le secrétariat d'État à la famille, avec notamment des mesures permettant des congés parentaux partiels pour les deux parents, et surtout pour la période sensible 0-3 ans de l'enfant. Hein,
C'est une période évidemment cruciale, et je rappelle que c'est le chanteur Kiali qui est le parrain de cette association. En tout cas, allez voir ce site internet, hein, lplm.info, vous y retrouverez évidemment beaucoup de documents qui vous permettront de réfléchir sur cette place du père dans la famille. Merci beaucoup Gérard Révérend d'avoir été en ligne avec nous. Alors on a plusieurs témoignages qui nous arrivent. Karim qui nous dit: j'ai vécu une vie de famille, mais je m'en suis détachée car la famille s'immisce dans la vie du couple. Ils encouragent un conjoint à agir dans un sens ou dans l'autre. De plus, j'ai réalisé que ma femme était difficile à comprendre et j'ai du mal à être à la hauteur. Beaucoup de divorces sont dus à la famille aussi, à la famille notamment de l'autre. Alain qui nous dit « J'ai toujours détesté les réunions de famille car je trouve qu'il y règne toujours une certaine mauvaise foi. La famille de ma femme est nombreuse et je m'y suis toujours sentie un peu exclue. » On n'a pas peut-être suffisamment parlé de l'exclusion, hein, de ce beau-fils qui arrive, ou cette belle-fille qui arrive dans la famille de l'autre. Et il nous dit en tout cas, Alain, que c'est un véritable clan qui ne se trouve aucun défaut. Je voudrais qu'on prenne tout de suite une autre auditrice en ligne. C'est Élodie. Alors elle, Élodie, elle est positive à tout prix. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous. Vous nous appelez, oh quel joli nom, de Serres-les-Sapins.
Tout à fait.
Ça c'est ravissant. Alors vous avez un mari qui ne vient jamais aux réunions de famille, mais ça vous va parfaitement.
Alors moi j'ai un mari qui vient aux grands événements,
oui.
Mariage, Noël, les anniversaires, pas toujours, fête des pères, fête des mères, jamais, et ça me va parfaitement, comme ça je peux profiter de mes parents toute seule.
C'est ça, exactement. Mais c'est drôle parce que, alors, je vous allais rebondir à un mail de Nancy qui nous écrit, le souci n'est pas tant que mon conjoint n'assiste pas aux réunions de famille, c'est de devoir me justifier et de trouver les excuses de sa non-présence. Comment vous expliquez sa non-présence alors dans ces réunions de famille?
Non, mais moi j'ai un conjoint, enfin mes parents savent, il est très discret, il parle pas beaucoup, donc bon, ben, moi je m'en accommode, c'est pour ça que je l'aime aussi, moi je parle beaucoup, donc on est très très différents, donc non, mes parents s'en accommodent totalement, et puis bon... Ils m'ont moi, donc c'est le principal.
C'est mignon. Ils m'ont moi, donc c'est le principal. En même temps, c'est pas faux. Hein. Là.
Et puis, moi, chaque fois que je vais chez mes parents, j'emmène mon petit-fils avec moi. Donc, ils profitent de leurs petits-enfants. Ils les voient tous les week-ends. Donc, voilà.
Tu vois bien.
Je peux pas forcer mon conjoint. Sa famille est loin. Donc, je peux comprendre aussi qu'il n'ait pas toujours envie de venir dans ma famille. Je peux le comprendre. Je peux le concevoir tout à fait.
On voit bien que le dialogue, en effet, a beaucoup aidé dans ce couple, puisqu'elle dit, je comprends parfaitement, sa famille est loin. Donc, oui. Je comprends.
Alors, moi, je tiens à remercier Élodie pour son témoignage. J'ai remercié aussi tous les auditeurs qui nous envoient des emails qu'on lit ici, dans le studio, qu'on ne nomme pas forcément, mais qui participent, à l'ambiance qui règne ici sur ce plateau. Et je dois dire, ce qui est formidable avec Élodie, avec tous les auditeurs qui nous envoient des témoignages, c'est qu'on a une formidable mosaïque, une formidable diversité des approches de chacun, de chacune. Il y a ceux qui aiment la vie de famille, il y a ceux qui sont d'accord avec leur conjoint, il y a ceux qui sont pas d'accord, il y a ceux qui ont trouvé des modalités, il y a ceux qui sont en train d'en chercher, et puis il y a ceux qui souffrent et qui n'y arrivent pas. Tout est possible. Et puis dans cette mosaïque humaine, je dirais, c'est ce qui fait le bonheur d'un métier comme le mien, par exemple psychothérapeute, où je vois des couples, je vois des personnes, ils sont tous différents, et si un seul d'entre eux n'était pas là, ou si un seul auditeur n'était pas là, eh ben la vie serait un peu différente.
Et on remercie évidemment, merci pour ça, Laurent, Élodie, pour son témoignage. Et Véronique nous écrit, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec vous quand même.
Oui.
Véronique, il dit réaction face à une des réponses du psychothérapeute. Encore une fois, les femmes doivent tout faire, c'est ta sœur Julia. C'est peut-être un peu facile à eux aussi de faire l'effort.
Bien sûr,
évidemment.
Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour les aider à aider leur mari. Parce que ils ont du mal, les pauvres hommes. Et moi, le premier, bien sûr.
Merci beaucoup, Laurent Chachman, d'avoir été en tout cas avec nous. On va terminer par la chronique du jour. Vous restez avec nous encore 2 minutes ?
Avec plaisir.
C'est gentil. Tous les jours, vous le savez, nous terminons cette émission donc par la chronique. Le mardi, on se demande comment payer moins cher des objets de la vie quotidienne. Et on parle des jouets aujourd'hui pour se faire pardonner de ne pas avoir été là pour l'anniversaire. Peut-être que le lendemain, il faut offrir un jouet pas cher. C'est horrible. Jean-François Lecam sera avec nous dans quelques instants.
Europe1.fr a changé. Europe1. Évolue. Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast.
Europe1.fr/radio. Europe1.fr.